Voilà, je vous salue tous, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Souvent, quand on arrive, on se met dans sa tube, on se prépare pour la prédication, donc on était en prière derrière. Mais recevez le bonjour de Dieu ce matin. Nous sommes après Pâques, et nous sommes toujours dans l'esprit de Pâques, avant d'entrer dans l'esprit de Pentecôte. Et nous allons examiner quelques aspects des points doctrinaux que nous avons déjà abordés quelques temps, et surtout le dimanche dernier que je n'ai pas terminé. Et nous allons continuer aujourd'hui à examiner quelques aspects à partir de deux textes. Un qui avait été lu ce matin par Monique, extrait des Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Et nous lirons Romains, qui serait beaucoup plus technique, Romains chapitre 6, à partir de versets 5 à 6. Voilà, nous tenterons d'être assez clairs pour que ce message soit beaucoup plus pratique. Permettez-moi encore de prier pour que le Seigneur nous donne sa sagesse, de vous donner ce message de manière compréhensible. Seigneur, souvent tu mets ta pensée dans nos cœurs pour que nous puissions l'exprimer par les mots. Mais depuis, Seigneur Dieu, la division qui avait eu lieu à Babel, les mots ne reflètent pas particulièrement ce que toi, Dieu, tu ressens. Et nous voulons vraiment qu'au travers de chaque mot, que l'Esprit du Seigneur nous donne le sens le plus profond, y compris même de ta personne, des Écritures. C'est par ces mots, c'est par ces puissances qui revêtent la vérité que nous pouvons être délivrés. Et je te prie de nous revêtir ce matin de ton intelligence, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous comprenions pour notre salut. Dans le nom de Jésus, amen. Quelqu'un m'a fait une remarque que quand on allume une lampe, elle n'est pas faite pour éclairer derrière nous. Elle est faite pour éclairer devant, pour éviter de s'achoper, pour éviter de tomber dans les ravins, ou parfois simplement pour éviter de se tromper de direction. Ça nous permet de voir le panneau indicateur vers la direction dans laquelle on s'engage. La vie chrétienne n'est rien d'autre que le processus, écoutez bien, le processus par lequel nous exprimons de manière visible, nous exprimons au travers des mots, nous exprimons au travers des actes, ce que nous sommes déjà devenus en Christ. C'est ce que nous sommes devenus en Christ qui doit s'exprimer au travers de notre vie pratique. On aurait passé de la doctrine à l'application. On aurait passé de la théorie à la pratique. Et ça, pas dans un domaine particulier de la vie, mais que ces vérités que nous aurons emmagasinées se répandent et s'irriguent dans tous les détails de notre vie. Et ceci, chacun va le faire à son rythme. Il ne faut jamais mettre la pression sur quelqu'un dans la vie chrétienne. Mais si c'est une bonne pression pour que la personne s'améliore, c'est une autre chose. Mais nous marchons tous à notre rythme. Il y en a d'autres qui sont faits pour aller plus vite. Il y en a d'autres qui prennent le temps d'intégrer et de joindre ce qu'ils ont appris à la parole, pour qu'il n'y ait pas de distance entre ce que nous avons appris et ce que nous sommes censés appliquer. C'est le grand mal de la vie de l'Église. Joindre la parole ou joindre la pratique à la parole. Comment marcher d'une manière digne d'enfant de Dieu? C'est le titre d'aujourd'hui. Nous aurons le temps de lire, mais permettez-moi de poser déjà les jalons. Comment marcher d'une manière digne d'enfant de Dieu? Au sens du mot héritier, mais au sens du mot statut royal. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ce n'est pas un vain mot. C'est un mot qui pèse. Quand on dit que celui-ci ou celle-ci, c'est le fils ou la fille d'un milliardaire, ou du roi ou du président de la République, votre regard change sur la personne à cause de sa filiation. Et Jésus, quand il voulait se présenter à ses contemporains, il se présente par rapport à Dieu le Père. Au point que les pharisiens disent, mais qui est ton Père? Jésus a dit que vous ne connaissez pas mon Père, vous ne le connaissez même pas et vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez, vous connaîtriez mon Père. Et si vous connaissez mon Père, vous me connaîtriez. Et donc là, nous nous définissons par rapport à Dieu le Père. À sachant que nous avons été créés par lui. Depuis la fondation du monde, nous avons été aimés et aimés encore par Dieu. Sauvés par lui, adoptés par lui, soutenus et guidés par sa présence. Et plus que tout, il nous remplit de son esprit qui vient à notre secours à chaque marche. La question est celle-ci. Quelles seraient les caractéristiques d'une marche digne du croyant? Car c'est à cela que Dieu nous appelle. Rappelons-nous que nous sommes devenus un seul peuple par le Christ et faisons tous partie du royaume de Dieu. Nous sommes membres de la famille royale. Nous sommes des frères et des sœurs rattachés à Christ. Et c'est là notre destin. Ceci étant dit, nous sommes devenus une nouvelle création dans un monde qui, lui, n'a pas changé. Ou alors, il change dans le mauvais sens. Comment vivre une valeur nouvelle qui est celle de Dieu dans un contexte hostile où tout s'oppose à Dieu, où tout s'oppose à la vérité, où les gens aiment le mensonge plus que la vérité, ils aiment les ténèbres plus que la lumière, ils s'attachent à la mort plutôt que de s'attacher à la vie. Et nous, dépositaires de la grâce de Dieu, porteurs de vie, porteurs de la grâce, ambassadeurs du Christ, nous sommes appelés à vivre dans cet environnement. Mais qui ne va pas nous faire de cadeaux. Parce que Jésus nous a arrachés de ce monde pour faire de nous une nouvelle création, tout en étant dans ce monde. C'est pourquoi il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du. C'est-à-dire la valeur, les carburants, les ressources, les forces avec lesquelles nous sommes appelés à propulser ne vient pas de la terre, mais vient de quelque part. Comment continuer à vivre une vie proche de Dieu, où nous sommes confrontés à des imprévus, des accidents, des trahisons, des déceptions, même parfois aux conséquences de nos propres erreurs. Comment pouvons-nous continuer à vivre dans la sainteté, dans un monde où parfois, de manière inconsciente, nous nous blessons mutuellement, nous cédons à la jalousie, à la tentation, à la colère, à l'orgueil. Et qu'est-ce que je sais encore? Et pour résister au déclin et au désespoir de cet environnement hostile, Dieu nous demande de progresser. De progresser malgré tout. Et pour cela, il ne nous a pas laissés démunis. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et nous allons en examiner quelques points aujourd'hui. Et je vous invite à la lecture de Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, c'est une conséquence, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Alors, on va décomposer les mots. Marcher, dans certaines versions, se conduire. Dans certaines versions, s'appuyer. Ici, marcher est beaucoup plus large. Elle englobe tout. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Continuons. Voilà la manière. En toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, avec amour. Le verset 3, que je n'ai pas mis, Je vous demande de l'écouter. Efforcez-vous en vous efforçant. Il y a un effort là, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Parce que nous avons été courbés par le péché. Et la vérité tente de nous redresser. Et il y a un effort à faire. En nous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ô Seigneur, nous aide. Je veux rajouter un autre élément. Romains chapitre 6. Je sais pas si à partir du verset 6 ou du verset 5. Oui, on va le lire à partir du verset 6. Puisque nous allons aborder toutes ces questions-là. Car, en effet, dans certaines versions c'est car, mais bon, on va lire celui-là, celle-là. En effet, si nous sommes devenus une même plante, devenir, ça suppose qu'on n'est pas né une même plante, on le devient par la suite. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, lui qui, Jésus, par la conformité à sa mort, nous venons de le fêter, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons, nous sentons pas, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Merci. Vivre pour Dieu dans un monde hostile, c'est là la question. Et à cela, nous allons nous référer à la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17, verset 17, je le cite, en priant le Père, « Fais qu'il, les disciples, vous et moi, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu rend saint. Car le but de Dieu, c'est de nous rendre saints. C'est de nous arracher au monde et de nous mettre à part pour lui. Alimenté par lui, soutenu par lui, pour accomplir un plan que lui, il a déjà élaboré avant la fondation du temps. C'est-à-dire qu'avant que toi et moi, nous puissions venir à la vie, Dieu a déjà élaboré le plan pour nous. Tout est fait. Notre difficulté, c'est que nous gênons Dieu dans le travail qu'il veut faire pour nous, à cause de notre nature qui n'est pas parfois docile à la volonté du Seigneur. Et c'est naturel. Si cela n'avait pas été, Jésus ne serait pas venu mourir. Personne au milieu de nous, ce matin, s'il vous plaît, a choisi d'être né pécheur. Nous le sommes par nature. Mais Dieu sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer. Le zèbre ne peut pas changer la couleur de sa peau, disent les Africains. Et la Bible le dit aussi. Aussi belle que sa robe soit, la panthère ne peut pas le changer. Et aussi que nous le sommes dans notre nature humaine, nous ne pouvons pas nous changer. Le péché, il est là. Même si nous faisons de bonnes choses. Il y a des gens parfois qui sont très bien éduqués, qui n'aiment pas le mensonge, qui n'aiment pas le vol, qui n'aiment pas la tricherie, qui n'aiment pas la luxure. Mais tout ça, c'est lié à leur éducation. Cela ne le dispense pas d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Les gens iront en enfer, pas pour n'avoir pas posé de bons ou de mauvais actes. Les gens iront loin de Dieu pour avoir refusé de saisir la main tendue de Dieu. Et cette main tendue, c'est le Christ, qui est le chemin de la vie, que nous avons chanté tout à l'heure. Et ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, Jésus a prié pour que nous puissions être sanctifiés par la vérité. Rendre saint, nous mettre à part. Jésus a prié pour un peuple séparé du monde et du péché, et ce, afin de pouvoir l'adorer, le servir. Être mis à part nous permet de demeurer près de Dieu, de demeurer dans son abri, de demeurer dans son refuge. C'est pour dire quelque part, accepter la vérité est protectrice. La vérité nous protège. Même si souvent ça nous fait souffrir. Car je vous dis que l'obéissance à la volonté de Dieu ne nous dispense pas de la souffrance. Bien au contraire. La probabilité pour que nous souffrions pour Dieu est beaucoup plus forte en obéissant à la volonté de Dieu qu'à ne pas y obéir. Ne pas y obéir viendra un peu plus tard. Mais dans l'immédiat, quand on n'obéit pas à la volonté de Dieu, ou quand on obéit à la volonté de Dieu, on souffre. On se fait doigter. Dans le milieu de travail, on est ostracisé. Mais ceux qui veulent vivre pieusement en Christ vont connaître la souffrance. Et si c'est pour cette souffrance dont vous souffrez, la Bible a dit, n'ayez pas honte, parce que la grâce de Dieu repose sur vous. L'homme postmoderne affirme avec arrogance que la vérité absolue n'existe pas. C'est comme si la mort absolue qui arrache les hommes n'existe pas. J'aurais aimé poser la question à cette personne. Si la mort existe, oui ou non. Selon eux, la vérité est plurielle. Et par conséquent, on en déduit que chacun a sa vérité. Personne ne peut avoir chacun sa vérité. Et on le voit dans notre petit pays, là. Ce sont 6 millions d'habitants. Parfois, sur un sujet, on a 66 millions d'avis. Imaginez. S'il n'y a pas une loi pour arranger tout le monde dans la même direction et que chacun doit faire ce qu'il veut, dites-moi. Ce ne serait pas du jazz. Le jazz est déjà mélodieux. Même si à mes oreilles, le jazz, c'est un peu de la cacophonie, mais là, on va dans le souk complet. C'est le chaos. Mais c'est le chaos que Jésus est venu arranger. En faisant en sorte que chacun n'ait pas sa propre loi. Si chacun avait sa loi, c'est la loi du péché. Et la seule loi qui est la nôtre, c'est Jésus, la lumière, la vérité. Et c'est dans ce moule-là qu'il veut nous modeler pour que nous tous nous sortions. Quand on sort du moule de Jésus, on se ressemble tous. Moralement, spirituellement. Parce qu'on est sorti de la même source qui est Dieu. Ainsi, Dieu ne peut pas construire un peuple où chacun aurait sa vérité. Ce n'est pas possible. Le royaume de Dieu est centré sur la vérité, qui est le Christ. Et dans le livre de Proverbes, il est dit, en une seule phrase, que la vérité est pure. Et donc, celui qui reçoit la vérité, en reçoit également les qualités de la pureté, qui est une dimension de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie pure, sainte. Ainsi, après avoir appris la vérité, la parole nous met en garde en disant « Apprends à être véridique, sage, discipliné, intelligent et ne gaspille pas ses qualités. » Tout un programme. Parce que souvent, quand on acquiert la vérité, c'est comme si on a un trophée. Et il faut se batailler pour que cette vérité reste la nôtre. Parce que l'ennemi va l'attaquer. Jésus étant la vérité incarnée, et il n'a pas échappé à l'attaque de la part de l'ennemi. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain à la croix. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. Et il le susurre à nos oreilles. Si tu es réellement un chrétien ou une chrétienne, mais tu ne dois pas censé faire ça. Ou alors fais-le. Prouve que Dieu est grand. À qui est la vérité? Sois sage. Discipliné. Deviens intelligent. Et ne gaspille pas ces choses. Alors on en vient maintenant au texte de Romains chapitre 6 que nous avons lu. Avant de terminer avec les cinq domaines ébauchés dans Éphésiens. Il y dit, sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ ou sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est tout un programme là. Mais je voudrais noter quelque chose. Il est dit, sachons bien ceci. La foi chrétienne ne se vit pas par rapport à ce que l'on ressent. Ah oui. Parfois, on le fait, mais... La vie chrétienne ne se vit pas par les sentiments seulement. Mais la vie chrétienne se vit par ce que l'on sait de Dieu, de sa parole, de ce que l'on sait de Jésus qui est devenu Christ et dont la présence est multipliée après la résurrection, qui ne vit pas un seul endroit à la fois, mais qui vit en nous et partout, et qui va revenir. Quand ces éléments ne sont pas posés, la foi chrétienne n'est pas la foi chrétienne. Parfois, on a une fausse approche de Dieu. Ah, Dieu, il est trop bon. Son métier, c'est de pardonner. Ah, il n'est pas là pour envoyer en enfer. Si, la volonté de Dieu, c'est de ne perdre personne. Mais si quelqu'un veut se perdre, il se perdra. C'est le cas de Judas. Ce n'est pas que l'occasion ne lui a pas donné de se racheter. Mais il était tellement embarqué dans sa dynamique de perdition, mais qu'il est allé jusqu'au bout. Dieu ne veut perdre personne. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité qui est rompue. Mais malheureusement, il va y avoir des déperditions en cours de route. Et Dieu ne peut pas enfreindre ses principes sous prétexte d'amour. Déjà, il a déjà aimé. Quelqu'un qui aime, il prend un risque. Ah oui. Vous êtes bien placé comme moi de savoir que celui qui aime, il se jette dans le vide. C'est parce qu'on aime qu'on souffre de la part de celui vers qui nous portons notre amour. On serait indifférent à l'égard d'un ennemi qui veut notre mort. On dit que bon, ben, lui, s'il me parle mal, c'est bon, c'est sa nature. En revanche, quelqu'un que vous aimez et qui vous aime et qui ne fait pas les choses comme vous l'attendiez, vous serez blessé. Parce qu'il y a amour. Et Dieu, il est blessé. Parce que nous lui avons désobéi. Il est blessé, Dieu. Mais malgré sa blessure, il nous aime. Et ce serait le cinquième point que je verrai plus tard dans le texte. Pour l'instant, la foi chrétienne ne vit pas par ce que nous sentons, mais par ce que nous savons. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il ait dit tout à l'heure que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Il faut le savoir. On s'investit pour savoir des choses qui ne nous apportent pas la vie. Ça, c'est une réalité, oui ou non. Mais on s'investit peu pour comprendre la parole de Dieu qui apporte le salut. Le péché gravit beaucoup plus vite que nous dans la recherche de notre connaissance. Et pourtant, l'Église a tout ce qu'il faut. Savoir, c'est une arme. Car c'est combattre l'ignorance. L'ignorance, c'est une arme de la part du diable. Le savoir, c'est une arme de la part de l'enfant de Dieu. Savoir que le vieil homme, le corps du péché, crucifié avec Jésus, c'est un bon pas dans la bonne direction. Savoir que je suis mort, ou ce que j'ai été déjà mort à la croix, et que maintenant je suis une nouvelle création, c'est un grand pas dans la bonne direction. Mais vous allez me dire, mais Samuel, la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, et que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, je l'avoue, mais on n'a pas changé. Pas dans le sens que nous voulons. En acceptant Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Un changement extraordinaire. Qui a vu qu'il était arraché sur cette planète et il est allé se mettre sur une autre planète pour vivre mieux? Non, on y est encore là. L'environnement est contre nous. Mais nous, nous sommes différents. Tout autour de nous, il y a les ténèbres et il y a la lumière qui est là. Et le travail doit se faire sur nous-mêmes. Pour que nous soyons détachés, sevrés du monde, de tout ce qui nous dénature, venant de sa part. En pointant notre cœur vers Dieu, vers qui nous recevons toutes choses. Et pour cela, j'ai besoin de savoir que moi, je suis déjà mort dans ma vieille nature. Et que si je vis désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais vous allez me dire, mais Samuel, encore à ce niveau, on commet le péché. Oui, mais on commet le péché parce que nous sommes déjà en Christ, notre péché est recyclé au fur et à mesure. Voilà. Oui, le diable va dire que tu as péché. Oui, j'ai péché, mais Jésus a déjà travaillé. C'est ça. S'il est question que Dieu nous bénisse à cause de notre obéissance, il nous aurait bénis à cause de notre obéissance, mais pas à cause de Christ. Or, Dieu nous bénit à cause de Christ. Que nous ayons bien agi ou que nous ayons mal agi, mais c'est Christ qui nous porte. On est en lui. Seigneur, c'est vrai que j'ai commis une maladresse, mais s'il te plaît, demande-moi pardon. Délivre-moi de là, donne-moi la force. Mais avance. Et il y a des gens qui vivent toujours dans leur passé. Le diable leur rappelle ce qu'ils avaient fait hier. Ils ne parviennent pas à dépasser le passé pour outrepasser, aller vers l'avant. On avance. Laissez-le se débrouiller de ce qui est derrière. Nous, on fonce vers l'avant. Nos envies et nos désirs, Dieu ne les réprime pas. Nos envies et nos désirs doivent être vécus, mais dans un cadre déterminé par le Seigneur. Parce que généralement, on accuse les chrétiens en disant que quand on devient chrétien, c'est la liste des interdits, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Non, nous revenons à l'originel. Voilà. Jésus n'est pas venu pour apporter quelque chose de nouveau. Il nous vient pour nous ramener ce que nous aurions dû faire. Voilà. Il y a 5 attitudes à respecter, comme nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens. L'humilité, la douceur, la patience qu'on appelle longanimité parfois, l'amour, ça c'est un amour pratique, l'amour indulgent à l'égard de quelqu'un. Et après nous verrons l'unité, la paix et l'unité. Alors ça, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. Marcher avec humilité. Alors je vous rappelle que le mot humilité vient du mot humus. Humus vient de l'engrais, ce qui est pourri. Voilà. Si une feuille d'arbre ne pourrit pas, il ne produit pas de l'engrais. Quand il pourrit, il produit de l'engrais. Vous voyez mon regard là. L'humilité, c'est une qualité cardinale qui s'obtient quand notre vieille nature cède la place à la nature de Dieu. Autrement dit, nous mourons. On devient de l'humus. On devient mort. Il faut qu'il y ait la croix qui passe. Et c'est la seule condition de se diriger vers la prospérité spirituelle. Sans humilité, on ne peut pas grandir. L'humilité est la porte de toutes les vertus. On ne peut rien obtenir de la part de Dieu sans une disposition du cœur, même le salut. Et souvent, l'humilité, ça, c'est une des qualités difficiles. Comme je le disais à ceux de mon groupe, accumulée avec l'exercice de l'autorité. Comment quelqu'un peut être à la fois humble et il peut être exercer l'autorité du Christ sans être autoritariste? Ce sont deux proximités difficiles à concilier. Dans notre monde, quand tu es humble, on te dit que tu es moins que rien. On te marche dessus, paillasson. Et quand tu es trop autoritaire, on te dit celui-là, ça c'est. Voilà, je connais un papa chez moi là-bas, on l'appelle le rhinocéros. Lorsqu'il vient avec la voiture, il gare et tous les enfants sont dans la chambre, la porte est fermée. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Mais avec Jésus, on voit les deux. Il arrive à cumuler, à concilier l'autorité et l'humilité en même temps. Et c'est cet exercice que nous pouvons le faire. On ne peut pas le développer sans mourir. C'est difficile d'être humble. Sinon, on ne l'est que de l'apparence, mais au fond de nous-mêmes, on est hypocrite. Donc, il faut que la mort exerce son opération pour que la vie du Seigneur émerge et que l'autorité de Christ par la vérité se joigne. Donc, on peut à la fois être quelqu'un qui exerce l'autorité spirituelle et en même temps être humble. Jésus l'a fait. Jean 13 nous le montre, comment il a lavé les pieds de ses disciples. Et il leur a dit, ce que je vous ai fait, faites autant. Ça n'a pas enlevé en lui son titre de roi. Il n'a pas perdu un iota de son titre de Seigneur des Seigneurs. Bien au contraire. Jésus dira que heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume. Ça, c'est une des béatitudes que nous devons comprendre. Et Dieu conduit, instruit, fortifie, enrichit, fait prospérer les humbles. La deuxième qualité, c'est la douceur. Ah, l'humilité produit toujours de la douceur. Et le mot douceur ici doit être vu par le mot débonnaire, que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 5:5. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre de Dieu comme héritage. Être doux, c'est déjà être dompté. C'est ça le sens du mot. Être dompté, dompté par Dieu. Doux. La douceur est la puissance contrôlée. Elle ne cherche pas à s'affirmer. Être doux, c'est avoir fini avec nous-mêmes. Ensuite vient la patience. La patience découle de l'humilité et de la douceur. Celui ou celle qui est patient supporte les circonstances difficiles sans y céder. Et vient ensuite l'amour. L'amour qu'on appelle l'amour agapé. L'amour indulgent, qui consiste à accepter les blessures de la part des autres tout en continuant à les aimer. C'est ça l'amour du Seigneur. On va se blesser, mais ce n'est pas grave. C'est le jeu de l'ennemi. Le prix avec lequel nous avons été rachetés, c'est le sang de Jésus. On ne va pas donner au diable le sang de Jésus. On se bat pour garder ce que Dieu nous a donné. Et ensuite, quand on est animé de l'humilité, de la douceur, de la patience, quand on exerce de manière détachée ou de manière sacrificielle un amour indulgent, on devient constructeur, on devient bâtisseur. Et celui qui bâtit ne désunit pas. Il est artisan de l'unité. Il est artisan de l'unité. Même en parlant, même en rien faisant ou en faisant des choses, il travaille dans le sens de l'unité. Et c'est la caractéristique que Dieu nous demande en tant qu'Église du Seigneur. Dans l'unité. Soyons un. C'est la prière de Jésus. On s'aperçoit que de par le monde, il y avait un moment où Dieu mettait l'accent beaucoup sur Dieu le Père. Car les gens ont tendance à confondre le profil de Dieu, le véritable, le juste, le vrai. Et de par le monde, il y a des prédications qui sont portées sur la personne de Dieu. On s'aperçoit qu'il y a eu une décennie où toutes les grandes prédications sont portées sur la personne de Jésus le Christ. Parce que Jésus veut construire une église qui relève de lui, qui vient de lui, église de vérité, mais il faut le vrai Christ, le vrai. Et donc les prédications sont orientées pour explorer la personnalité de Jésus. Nous en sommes arrivés à un point où Dieu est en train de travailler l'unité de l'église. L'unité de l'église. Nous n'avons qu'un seul Dieu. On n'a qu'un seul Christ, mes bien-aimés. Nous n'avons qu'un seul esprit de vérité. On n'a qu'un seul Seigneur. Nous n'avons qu'un seul royaume. Dites-le-moi. Il y en a un autre encore. Voilà. Et donc nous faisons partie de la même maison. Même celui qui est de l'autre côté là-bas, qui pense que si Jésus viendrait aujourd'hui, ce serait dans son église qu'il viendra, mais pas dans celui de l'autre. Non, c'est diabolique. Ce sont vos frères. Même s'ils sont dans un quart de vérité, ils sont en train de s'acheminer vers la recherche de la vérité. Aidez-les à avancer. Ne les stigmatisez pas. Ce n'est pas biblique. Encourageons-nous vers le chemin de la foi. Nous aurons honoré le sang de Jésus qui a été versé. Ne dites pas au diable que le sang du Fils de Dieu a été versé pour rien et que Dieu a pleuré ce jour-là pour rien et que la terre a tremblé pour rien et que le ciel a refusé de regarder la crucifixion de Jésus pour rien, mais nous travaillons pour élever celui qui nous a sauvés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. En vous coule la veine, coule le sang du Christ. Vous n'avez plus le groupe sanguin A1 ou A2 ou B+. Non, on a le sang du Seigneur, le sang du salut. Alors encourageons, que Dieu nous aide. Doublons la densité de notre amour les uns pour les autres. Voulons le bien de l'autre. Si l'autre réussit, bénissez le Seigneur à cause de lui. Ne le jalousez pas. Que le Seigneur te fasse grandir. Et quand tu le dis ainsi, tu libères aussi ton espace pour que Dieu te bénisse et que l'Église tire vers le haut. Je vous invite à la prière. S'il y a une chose que nous voulons dire, oui, amen Seigneur, c'est à ta parole. Tu connais la personnalité de chacun d'entre nous, hommes et femmes. Et tu connais les points sur lesquels Dieu, tu veux mettre l'accent pour que notre marche avec toi soit équilibrée. Tu nous as donné le salut. Il n'y a pas une autre richesse beaucoup plus grande que le salut. Et nous le recevons ce matin. Nous voulons en être dignes par notre attitude, par notre comportement. Nous voulons rendre compte au monde que le Dieu auquel nous croyons, que le Seigneur qui est notre délivrance, est Jésus le Christ, est celui qui a été ressuscité d'entre les morts. Pas le modèle, mais le prototype de la nouvelle humanité. Cette humanité nouvelle que tu as créée et qui sera appelée à vivre dans un royaume nouveau. Et c'est cette famille à laquelle tu nous appelles ce matin. Nous rendons gloire à toi et te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.